Sortie de boîte. Sortie de boîte, Cédric Adrovert.
Oups, je me suis parqué au mauvais endroit en rendant visite à notre invité. Au lieu d'être vers les bureaux, je suis devant la scierie. Pas grave, je traverse le tout. Tout de suite, évidemment, c'est l'odeur qui frappe, la bonne odeur de bois. Ça sent meilleur que le plastique, hein ? Ça, ce sont presque les premiers mots que mon invité m'adressera. Pourtant, rien ne le prédestinait, lui, à travailler dans une scierie dans le Jura, si ce n'est son histoire familiale. À la base, c'est un littéraire. Il a enseigné l'histoire des religions. Il a travaillé comme journaliste, ici même, à RFJ. Il a fait deux masters sur les relations avec l'Union européenne. Il a travaillé au département fédéral des affaires étrangères. Oui, un parcours atypique. Aujourd'hui, son bureau, il est situé à côté de celui de son père. Dessus, il y a une bonne douzaine de piles. C'est pas le plus ordré des bureaux, d'ailleurs. On voit des post-it, des plans, de machines. Il a troqué les dossiers fédéraux, en fait, contre les chaussures de sécurité. Et aujourd'hui, il vient nous en parler. Bonsoir, Gauthier Corbat.
Bonsoir Cédric, merci de l'invitation.
Avec plaisir, vous êtes donc membre de la direction du groupe Corbat, un groupe actif dans la première transformation du bois. C'est très large, hein, les activités sont larges, on en parlera. Avant, on va peut-être revenir sur votre parcours. Comment vous passez d'un bureau du département fédéral des affaires étrangères au bureau d'une scierie jurassienne ?
Assez simplement, même si c'est vrai que la transition a été un petit peu étrange, ou en tout cas, comme vous l'avez souligné, on parcourait un peu atypique. Disons qu'on s'y prépare, en tout cas, psychologiquement, puisque ça faisait un moment que je souhaitais sortir du département des affaires étrangères, quelques mois, puisque c'est un domaine quand même assez particulier, où la hiérarchie est très forte, où la bureaucratie peut être parfois pesante, où les blocages et autres séances peuvent prendre énormément de temps, et puis permettre aussi de nous remettre en question.
Et donc c'est la famille, votre cousin qui est venu toquer à votre porte et vous...
Oui, mon cousin Benjamin, donc c'est sûr que moi j'ai été un peu biberonné au bois et puis à ce milieu-là, mais c'est vrai qu'il m'avait approché déjà, comme j'ai eu des contrats à durée déterminée au DFAE, pour savoir si j'aurais de l'intérêt à rejoindre aussi le groupe, puisque lui avait fait le pas. Et puis ça m'a aidé lors d'une discussion sur un autre contrat que j'avais entre les mains au département des affaires étrangères à faire le saut. Et puis ce qui a vraiment facilité la transition, c'est que, comme vous l'avez souligné, j'ai toujours un peu baigné dans ce milieu-là, même si ce n'était pas mon métier en soi.
Donc il n'y a pas eu d'hésitation ?
Non, au moment où j'ai décidé, je l'ai vraiment décidé. Après, les hésitations, elles ont eu lieu peut-être avant, au moment de choisir mes études, lorsque mon grand-père venait assez régulièrement me dire « Bon, il faudra quand même un jour que tu viennes vendre du bois. » Mais c'est vrai que, voilà, avant 30 ans, c'était pas vraiment ce qui m'intéressait pour ma vie. Et puis, ça a mûri. Et puis, mon cousin a été, c'est vrai, l'élément déclencheur de cette décision.
Votre formation, elle est utile aujourd'hui dans une scierie ?
Oui, je pense qu'elle l'est. En tout cas, je dirais qu'il y a au moins, on ne peut pas faire des liens où il n'y en a pas, mais il y a au moins deux choses qui m'aident. Et dans mon expérience et dans ma formation, c'est d'une part la relation avec les gens, la possibilité de parler avec les ouvriers, de vraiment essayer de créer du lien entre eux, et puis de résoudre des conflits là où il y en a. Il y en arrive quand même assez régulièrement.
Les RH, c'est un peu comme la diplomatie.
On peut dire ça, ça ressemble à ça. Et puis l'autre point, je dirais que c'est quand même l'utilisation des langues, qui même dans une PME comme la nôtre, sont importantes, puisqu'on est en contact avec les pays limitrophes au moins, voire plus loin, quasiment quotidiennement.
Ça fait moins d'une année maintenant que vous êtes retourné dans l'entreprise familiale. On peut dire que vous êtes un patron en phase d'apprentissage ?
Non, on peut dire ça. Ouais, c'est une expression, je crois, qui s'y est bien à mon cas. J'essaye de prendre l'expérience et aussi les compétences de chacun pour essayer d'un peu acquérir moi-même de l'expérience et puis des compétences, des connaissances.
Cette attitude un peu humble, une attitude d'humilité, elle est essentielle pour vous ?
Ouais, je dirais que c'est un peu l'éducation que j'ai reçue aussi. J'aurais de la peine d'être directif ou d'imposer certaines choses à nos manœuvres ou à nos opérateurs, alors même que je sens que j'ai moins de compétences et d'expérience qu'eux.
Une des premières actions que vous avez eu à faire, c'est écrire l'historique de l'entreprise, qu'on retrouve d'ailleurs sur votre site internet. Vous êtes la quatrième génération, ça met la pression, ça ?
D'un côté, oui, parce qu'évidemment, quand on évoque le sujet avec moi encore hier, ça m'est arrivé, ça m'arrive régulièrement, on dit alors c'est toi qui vas reprendre le groupe. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qui peut un peu impressionner. Après, le fait qu'on travaille non seulement en tandem, mais qu'en plus on a la chance de pouvoir compter encore sur nos pères respectifs et puis sur le grand-père qui est toujours présent, le grand-oncle pour moi, c'est vrai que ça en enlève un peu. Si je m'étais retrouvé tout seul là au milieu avec mon peu d'expérience dans le domaine, la pression aurait été autre.
Et le fait d'être une famille à la tête d'une entreprise, ça a des avantages, des inconvénients aussi ?
Ouais, ça a surtout des avantages, je dirais, ça va dans le sens de ce que je viens de dire. Après, des inconvénients, évidemment, on pourrait dire que ce n'est pas simple parce que les rapports sont à la fois familial, donc émotionnel et professionnel. Après, on a la chance d'avoir des caractères et des compétences très différentes dans les gens que j'ai cités tout à l'heure. Et puis, on s'entend vraiment bien. Je pense qu'il y a une excellente entente entre nous tous.
Parlons du groupe, le groupe Corba. Vous faites surtout de la première transformation du bois. Concrètement, ça veut dire quoi ?
Ça veut dire que c'est le domaine qui couvre l'extraction du bois en forêt, donc l'achat du bois en forêt au moment où les gardes forestiers, les communes nous sollicitent pour, au moment des coupes, pour l'achat, jusqu'au moment où le produit qui sort de la scierie sous forme de planche ou sous forme de frise ou d'avivé est vendu aux utilisateurs comme les menuisiers, les charpentiers, les poseurs de parquet, etc. Donc la première transformation, c'est vraiment de l'arbre jusqu'à la transmission des utilisateurs, ce qu'on appelle la deuxième transformation, logiquement.
Alors concrètement, d'abord vous choisissez les arbres, ensuite qu'est-ce qu'il y a à faire jusqu'à ce qu'on ait une planche ? Parce que pour beaucoup de gens, il suffit de prendre un arbre, le scier, et puis c'est bon, on a une planche.
Très concrètement, les gardes n'hésitent encore pas trop, pour ce qui est donc, du marché suisse, ils ne vont pas m'appeler moi, mais plutôt appeler mon père. Et puis, il va se rendre en forêt, fixer un prix d'achat sur les bois et les qualités qui intéressent directement donc, Corba, qui achète essentiellement pour vendre la cour du feuillu, donc du hêtre, du chêne ou d'autres essences comme le frêne dans nos forêts.
Vous êtes la première scierie en Suisse d'ailleurs, feuillu.
Pour le feuillu, oui. Et puis ensuite, ces bois-là vont être rapatriés, transportés jusque sur notre site de Vandelincourt. Et puis là, les grumes vont être étalées sur le chantier. Mon père m'a marqué les qualités. Ils vont être ensuite montés sur un chariot, écorcés, etc., préparés pour la scierie, sciés en planche.
Et séchés également, c'est une étape qui prend beaucoup de temps.
Et séchés, ça c'est le grand art de cette première transformation. Moi, que je trouve assez fascinant, c'est que comme on travaille avec un produit naturel, ça prend des semaines, des mois pour que le bois ressuie correctement et puisse qu'il soit ensuite dans un deuxième temps séché au four pour pouvoir être utilisé notamment pour de l'ameublement. Donc ça prend beaucoup de temps, il faut beaucoup de place, les stocks de bois, les piles s'entassent. Et puis on peut peut-être se poser la question pourquoi, voilà, c'est pour sécher.
Pourquoi il y a des stocks à perte de vue, c'est le cas à Glovelier, c'est le cas à Vandelincourt, donc c'est parce que ça sèche. On aura appris quelque chose déjà ce soir. Les feuillus en Suisse, le feuillu, la première série en termes de feuillus, le feuillu il est utilisé pour quoi essentiellement aujourd'hui ?
Alors, pour toutes sortes d'utilisations, c'est-à-dire pour les produits que je citais tout à l'heure, donc des meubles, l'aménagement de tout type, aussi pour la construction bois. En gros, le feuillu est utilisé pour pas mal d'utilisations différentes.
Et il y a une autre série dans le groupe qui est un peu plus spécialisée, du coup, dans les épineux. Il y a les épineux et le feuillu, c'est ça ?
Oui, c'est ça, c'est ça, exactement. Mais...
Oui, allez-y.
Non, c'est les résineux, on appelle ça les résineux, donc le sapin, le mélèze, l'épicéa, qu'on utilise principalement, là pour le coup, pour de la charpente sur liste, et pour donc du bois collé. Et puis ça, c'est surtout sur notre site de Glovelier qu'on utilise ces essences-là.
Les résineux à Glovelier, Jean-Michel Probst est allé visiter, il avait pour guide votre cousin, Benjamin Corba, on écoute.
Sortie de boîte.
Arrive dans toute leur longueur et on va commencer par découper par qualité selon nos besoins et selon les qualités qu'on transforme. Et il est déposé ici, coupé de longueur et mis en tas par rapport à leur qualité. Et après, on va travailler par série. On va transformer par exemple une série de traverses. On va mettre toutes les traverses sur le transfert. Que les bois soient écorcés, puis amenés en scierie.
Benjamin Corba, on est justement ici à l'entrée de la scierie. On est sur le site de Glovelier. C'est là que vous travaillez le résineux. Et il y a un travail important parce que vous êtes en Suisse, notamment le seul fournisseur pour les traverses de chemin de fer.
Oui, alors pour les traverses de chemin de fer, effectivement, c'est du feuillu qu'on va utiliser. C'est du chêne et du hêtre. Et on est effectivement les derniers rescapés au niveau de l'imprégnation, la transformation des traverses de chemin de fer, où on va livrer en direct, just in time, les compagnies de chemin de fer pour leur chantier de rénovation de bois.
Quand on visite votre site internet, Il y a un des éléments qui paraît important, c'est la passion du bois.
Ouais, effectivement, c'est le cœur de notre métier, tout tourne autour du bois. Que ce soit de la charpente, de la traverse de chemin de fer ou des aménagements pour l'extérieur comme des lames de terrasse, des couverts à voiture. C'est tous des produits différents, des activités différentes. On s'est diversifié avec le temps, mais notre cœur, c'est le bois, quoi.
Et ici, on reconnaît déjà un peu ce qui va devenir les traverses. C'est juste ça ?
Exactement. Donc là, les traverses, elles arrivent à Glovelier, elles sont réceptionnées, elles sont contrôlées au niveau de la qualité. Et il y a des petites plaquettes anti-split, qu'on appelle des plaquettes anti-fentes, qui vont être posées à chaque extrémité, ce que vous voyez là. Et après, elles vont être mises en stock pendant 1 à 2 ans, suivant l'essence. Et après, suite à leur séchage ou ressuyage à l'air, quand elles ont atteint un degré d'humidité qui est satisfaisant pour l'imprégnation, elles arrivent ici. Elles sont usinées, c'est-à-dire rabotées et percées, avant d'être mises dans la cuve d'imprégnation. Parce que c'est aussi sur ce site ici, pour les traverses de voies, qu'on va fixer le matériel d'attache, les selles, les plaques qui vont recevoir par la suite le rail de chemin de fer.
Sortie de boîte.
De retour dans notre studio de Les Monts, c'est un peu moins bruyant. Gauthier Corbat est notre invité dans Sortie de boîte aujourd'hui. Les CFF, on l'a entendu, c'est le plus grand client pour votre groupe. Quand on a un aussi grand client, est-ce qu'on a un peu peur un jour de le perdre ? C'est un risque ?
Oh, c'est un risque qui existe. Je pense que c'est aussi quelque chose qui m'intéresse beaucoup hein, dans le domaine du privé. On sait qu'il y a des risques qui existent et puis qu'il faut se battre pour garder ses clients. Pour le groupe Corbat, c'est vrai que les CFF sont un client important. Après, on a un panel de produits, une diversification qu'on essaye encore davantage d'étendre pour réussir à pallier le problème. Mais
comment on s'assure de garder son client, de le garder précieusement?
Benjamin a utilisé l'expression en anglais « just in time » pour livrer les traverses. C'est vrai que réussir à suivre les livraisons et puis répondre aux demandes des CFF dans les temps, c'est quelque chose auquel on essaye de se tenir absolument. Et puis là, il y a des moments où c'est vrai qu'il y a du stress et puis tout le monde est investi pour réussir à livrer les traverses, les pièces que les CFF nous demandent dans les temps et avec la qualité requise. Donc il faut, c'est vrai, avoir des contacts qui sont des contacts qui datent déjà de plusieurs décennies pour essayer de maintenir ce contact. Mais c'est un client qu'on essaye de soigner.
Vous avez parlé de diversification, aller chercher de nouveaux marchés, lesquels ?
Alors là, bon, le projet en cours, hein, c'est vraiment aujourd'hui, parce qu'on a toujours plus de bois utilisé dans les constructions en Suisse, dans la construction bois.
Le sature bois,
etc.
C'est à la mode, ouais.
Et puis là, c'est un domaine dans lequel il y a des marchés, il y a des choses à faire, et il y a d'autres domaines. Essayer de vendre plus de plots, donc de sciage, ça c'est aussi quelque chose qu'on peut essayer d'améliorer, notamment en termes de délai, en termes de présentation du produit, de ce qu'on peut présenter aux clients. Je pense que le bois aujourd'hui, c'est un produit attractif, c'est un produit naturel, c'est un produit qui plaît aux gens, qui est plutôt chaleureux, qui a une bonne image. Donc le potentiel sont là, mais il faut diversifier les produits puis se battre contre la concurrence étrangère.
La concurrence étrangère, c'est un problème ?
Pour le bois, c'est un vrai problème. On n'a pas une valeur ajoutée comme peut l'avoir d'autres produits qui fait aussi le succès du marché suisse.
La main d'œuvre est plus chère.
On a le phénomène du Francfort aussi qui agit à plein. Donc on a une concurrence notamment de l'Allemagne ou des pays de l'Est qui sont présents sur le marché et qui concurrencent le bois indigène directement.
Mais du coup, comment vous faites pour vous en sortir vu que la main d'œuvre est plus faible à l'étranger? Quelle est votre valeur ajoutée?
Notre valeur ajoutée, alors bon, c'est sûr qu'on a les grands clients, les CFF qu'on a cité tout à l'heure, c'est une valeur ajoutée en soi parce que c'est un client qu'on peut s'assurer sur plusieurs années via des contrats pluriannuels. Et puis après, on essaye aussi, nous, d'exporter du bois, notamment sur le marché italien qui ne dispose pas de bois indigène, mais qui a fortement besoin de bois pour tout type de produits. On travaille aussi avec l'Allemagne, on travaille avec la France, donc on essaye aussi d'ouvrir le marché suisse qui est un petit marché. Et puis encore une fois, la diversification des choses qu'on peut vendre, qu'on peut faire, fabriquer, permet de ne pas être dépendant uniquement d'un seul client. Et puis, il faut aussi se mettre en avant d'un point de vue publicitaire, de notre image, etc.
En préparant l'émission, on parlait de la demande. Quel bois est le plus demandé? Vous m'avez dit, c'est un peu comme la mode. Ça change. Il y a vraiment des modes en termes de bois. Vous pouvez nous expliquer ça?
Alors, c'est sûr que nous, à notre niveau, dans la première transformation, on a un client à la fin, ou disons un utilisateur, et ensuite un client, etc. Mais on est directement dépendant de ce que les gens voudront acheter comme bois, c'est-à-dire en termes de couleurs, en termes de motifs, en termes de dessin du bois. Et puis, le hêtre, par exemple, est un bois aujourd'hui qui n'est plus très tendance. C'est un bois assez blanc et qui ne colle peut-être plus tellement sur certains marchés avec la demande des clients. Et donc, il faut s'adapter à ça.
Et comme la mode, ça se passe en Italie?
Alors, la mode se passe en Italie. C'est vrai qu'ils donnent le là sur plusieurs marchés. Et en tout cas, pour le bois, c'est un marché qui, quand ils toussent, ou en tout cas quand les Italiens sont plutôt orientés sur telle ou telle essence, on le ressent directement chez nous. Et actuellement, le hêtre, par exemple, a énormément de peine à être vendu, valorisé par les Italiens. Et nous, on le ressent directement en tant que partenaire, on va dire, de plusieurs entreprises italiennes ou clients italiens en Suisse.
Le hêtre, parlons-en. Dans les projets du groupe Corba, il y a le projet Fagus qui a pour but de rendre au hêtre ses lettres de noblesse quelque part. Parlez-nous de ce projet. Il consiste en quoi concrètement?
On est directement en lien avec ce qu'on disait. C'est clair que c'est l'essence la plus présente ici dans notre région. Nous, on cherche par tous les moyens à valoriser, à pouvoir exploiter les bois de notre région, hein, pour aussi aider toute cette filière qui est si pas en danger, en tout cas
sous pression.
Et donc l'idée est puisque on parlait de construction bois tout à l'heure, de ne pas forcément construire avec du résineux, de ne pas faire du bois lamellé-collé, de faire du collé avec du résineux, mais d'utiliser du bois feuillu. Et l'idée du projet Fagus, qui serait une première en Suisse, serait de tenter de coller d'abord des panneaux du hêtre pour ensuite réaliser du bois, ce qu'on appelle du BLC, du bois lamellé-collé, et concurrencer notamment le résineux sur le marché suisse. Et donc utiliser le hêtre pour une autre forme d'utilisation qu'aujourd'hui, puisqu'il est très peu utilisé ou de moins en moins.
Concrètement, ce projet aujourd'hui, il en est où? Encore en recherche de financement?
Alors il est toujours en recherche de financement. On a reçu une bonne nouvelle il y a quelques jours de la part de Forêt Suisse qui met aussi la main au porte-monnaie et amène une contribution pour ce projet dans lequel nous on est investis, mais on n'est pas les seuls à être actionnaires. Et donc on espère que ce projet pourra voir le jour dans le courant de cette année au Breleu, dans la parquetterie aujourd'hui où on emploie encore 2 personnes, mais qui est donc en sous-exploitation.
Ça représente quoi comme investissement, un projet comme celui-là, si on peut le dire?
Alors, on peut le dire. Il y a 10 millions prévus là, au départ pour la première phase du projet.
Ouais, donc c'est un immense investissement.
Disons, en tout cas pour le domaine, je pense que c'est déjà conséquent, effectivement. On est évidemment sur un marché qui n'est pas forcément comparable à d'autres secteurs, mais c'est un investissement de départ qu'il faut déjà réussir à trouver, et c'est un vrai défi en soi.
Vous sollicitez de l'argent public également pour un projet comme celui-là?
Alors, on sollicite aussi effectivement de l'argent public, notamment via la politique régionale. Donc, le Parlement jurassien aura aussi le dossier entre les mains ces prochaines semaines et pourra décider en fonction du projet ce qu'il en pense.
Avant de l'incour, quand on visite vos locaux, dans le bureau de votre grand-père, on peut trouver un téléphone en bois. Est-ce que vous avez une montre en bois, vous? Non,
Moi, j'ai pas de montre en bois, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs objets dans l'entreprise qui sont comme ça, en clin d'œil au bois, un peu sous toutes ses formes.
Oui, on peut voir aussi une vouivre du HC Ajoie en bois, sauf erreur, dans les locaux. Donc, pas de montre en bois pour vous, c'est dommage, parce que ça aurait pu intéresser Marie-Lise Saillard, qui chaque semaine nous livre une chronique qui parle d'horlogerie.
Pile à l'heure.
Vous le savez bien, si vous suivez fidèlement cette chronique, dans Pile à l'heure, comme dans la vie, nous aimons la diversité. Nous parlons d'innovation technique, de montres iconiques, d'inventions utiles, d'inventions futiles, de choses du futur comme de choses du passé. Entrons dans la machine à remonter le temps grâce à une petite visite au Musée international d'horlogerie à La Chaux-de-Fonds. L'institution présente ses dernières acquisitions dans une exposition temporaire. Il y a près de 60 montres à découvrir et parmi elles, ce petit bijou signé par un très très fameux horloger neuchâtelois dont nous aurons l'occasion de reparler, Ferdinand Berthoud, né en 1727, mort en 1807. La montre en question, à quoi ressemble-t-elle? Réponse de Jean-Michel Piguet, le conservateur adjoint du MIH.
C'est une montre de petit diamètre finalement, une montre avec un boîtier en or de plusieurs couleurs et un cadran très lisible avec une grande aiguille des secondes centrale, avec la particularité de pouvoir bloquer l'aiguille des secondes.
Une montre signée Ferdinand Berthoud, ça fait baver d'envie certains amateurs d'horlogerie. Cette pièce acquise par le MIH est-elle rare?
Il en existe quelques-unes, mais on n'en voit pas beaucoup et c'est vraiment une chance pour le musée d'avoir pu acquérir un type de montre comme celle-là.
Le musée international d'horlogerie reçoit des dons. Il sort aussi son porte-monnaie pour s'offrir certaines pièces. La montre de Ferdinand Berthoud dont nous parlons a été achetée aux enchères. Alors Jean-Michel Piguet, est-ce qu'il a fallu miser beaucoup?
Ça coûte un certain prix, évidemment, surtout en vente aux enchères. Mais là, on a eu de la chance parce que il n'y a pas eu trop d'enchères justement sur cette montre. Donc, on a pu l'acheter pour un prix relativement raisonnable, à peu près 5 ou 6 000 francs.
Cette pièce ne va pas se sentir seule entre les murs du musée. D'autres réalisations du même horloger s'y trouvent déjà, et certaines depuis longtemps.
Nous avons une vitrine complète, d'ailleurs, consacrée à Ferdinand Berthoud, en particulier un magnifique chronomètre de marine, qui était déjà là en 1902 à l'ouverture du musée d'horlogerie à La Chaux-de-Fonds.
Merci Jean-Michel Piguet et merci à Alice Elichti qui a recueilli ces explications. Les acquisitions de l'année 2016 sont à découvrir dès à présent au musée international d'horlogerie à La Chaux-de-Fonds.
Pile à l'heure.
Une chronique que vous retrouvez sur notre site internet, comme cet entretien et toute l'intégralité de cette émission. Nous recevions Gauthier Corbat ce soir. On a encore quelques minutes, Gauthier Corbat. On a parlé de votre entreprise familiale, on a parlé de bois, de feuillus, de résineux, d'une histoire de famille. Vous êtes la quatrième génération. On a parlé des projets, le projet Fagus notamment. Est-ce que vous, en tant que quatrième génération, vous arrivez aussi avec d'autres idées, des envies de rupture, c'est peut-être un grand mot, de nouvelles choses au sein de l'entreprise familiale?
Alors évidemment, pas de rupture, hein, ce serait un peu ambitieux ou arrogant, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir au fil des semaines et des mois comment fonctionne une entreprise, de voir finalement quels sont ses points forts, et puis quelles sont les améliorations possibles. Je dirais que c'est plus des optimisations des différents secteurs qu'on tente de mettre en place, ou en tout cas de réfléchir au sein de la direction. Et puis je dois dire que ça fonctionne bien, c'est un des aspects les plus attrayants pour moi, parce que c'est aussi de la réflexion, de l'échange, qui ne demande peut-être pas des compétences techniques, qui faut du temps pour acquérir. Mais on a, je pense que dans chaque secteur de la série aujourd'hui, on peut dire qu'on a un projet de développement, et c'est assez attrayant à suivre.
Et vous, peut-être pour un jour continuer, avoir une cinquième génération de Corbat.
On espère, mais faut la faire, la cinquième génération de Corbat. Il faut avoir le temps, hein, c'est une autre question.
On ne va pas vous retenir plus longtemps, du coup. Je propose qu'on arrête là cette émission. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été notre invité ce soir.
Merci beaucoup de l'invitation.
Très bonne soirée. Vraiment. La semaine prochaine, nous recevrons Denis Grisel. C'est le directeur de la promotion économique bernoise. Après 21 années de bons et loyaux services, il s'apprête à quitter ses fonctions. Autant dire qu'il a un certain recul sur la santé économique de notre région. Alors on va parler PME, on va parler innovation, partenariat, on va parler du passé, du présent, mais on va aussi parler de l'avenir, parce qu'il a une idée assez précise des défis qui attendent l'économie de la région. Et pour le futur proche, très proche, c'est la soirée qu'on vous souhaite excellente. À la semaine prochaine.
Sortie de boîte.